Voilà, chers amis, je suis heureux d'être parmi vous. Mon épouse aurait souhaité l'être aussi, mais nous sommes de garde avec notre petite fille et nous avons un peu perdu la main depuis 30 ans. Si vous voyez ce que je veux dire. En ce dimanche de l'Avent, nous fêtons une chose extraordinaire, c'est tout ce temps que les croyants ont attendu, tout ce temps pendant lequel ils ont attendu le Messie. Ce Messie qui vient. Et j'ai pensé qu'il fallait parler de l'Annonciation. Ce moment où l'ange parle à Marie. Et il dit cette phrase extraordinaire, que j'ai résumée ainsi, « À Dieu, rien d'impossible. » Et je vous invite à suivre avec moi dans la Bible, dans Luc, au chapitre 1, au verset 26, j'ai fait une petite erreur ici. Jolie musique. Luc 1, à partir du verset 26, ce texte qui nous raconte la visite de l'ange et l'annonce de la venue de Jésus. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et elle en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit, l'éternité, qui n'a ni commencement, ni fin. Il est aussi celui qui a tout créé, ce qui existe dans le ciel comme sur la terre, les choses visibles comme les invisibles, et tous les êtres qui grouillent sur notre planète. Il est aussi celui que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir. » C'est une parole d'un psaume que j'aime beaucoup et qui préside aux destinées de tout l'univers. Alors, est-ce que vous avez réfléchi un instant à ce que peut vouloir dire les cieux et les cieux des cieux ? Petite incursion dans quelque chose qui nous dépasse. La seule galaxie dans laquelle nous habitons, la Voie lactée, à un diamètre de 100 000 années-lumière. Alors vous allez me dire, années-lumière, eh bien, une année-lumière, c'est 9,46 milliards de kilomètres. Vous y voyez encore moins. Et dans cette seule galaxie, il y a déjà 100 milliards d'étoiles. Or, nous habitons une galaxie parmi des milliards d'autres. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Quand j'y pense, j'ai le vertige. Et ce Dieu immense est aussi celui qui veille sur chacun d'entre nous, au point que Jésus affirme quelque chose de renversant. Ne vantons pas une paire de moineaux, de ces petits oiseaux pour un sou, et pourtant, pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Alors ça va plus ou moins vite selon les gens. N'ayez donc aucune crainte, car vous, vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Mes amis, il y a en ce moment plus de 7 milliards d'êtres humains sur la terre et le Seigneur les connaît tous au point de savoir le nombre de cheveux qui est sur leur tête. Quand j'y pense, j'ai le vertige. Si Dieu est ainsi, alors qu'est-ce qui lui est impossible ? Vous savez qu'un père de l'Église, ou plutôt un grand théologien de l'Église, Anselme de Canterbury, au XIe siècle, a réfléchi à ce qu'on appelle la preuve de l'existence de Dieu. Et il a dit quelque chose comme ceci. « Si Dieu existe, alors il est celui dont on ne peut penser de plus grand. » Effectivement, Dieu, s'il existe, alors il n'y a rien de plus grand que lui. Et voici comment il le déclare. « Nous croyons que tu es quelque chose de tel que rien ne peut se penser de plus grand. » Ça, c'est le croyant qui le dit. « Tu es donc si véritablement, Seigneur mon Dieu, qu'on ne peut même pas penser que tu n'es pas. » Et à juste titre, car s'il se trouvait un esprit capable de penser quelque chose de meilleur que toi, la créature dépasserait le Créateur. Et elle jugerait le Créateur, ce qui assurément est absurde. Alors si Dieu est bien celui dont rien ne peut se penser de plus grand, alors rien ne peut lui résister. Ce qu'il a créé, il peut en modifier radicalement le cours. Ce qui n'est pas, il peut l'appeler à l'existence. Ainsi, la naissance d'un enfant chez un couple âgé est stérile. J'ai parlé de Zacharie et d'Élisabeth. Mais souvenez-vous que l'histoire du salut commence aussi par un tel couple. Quel est-il ? Abraham et Sarah. Et faire naître un enfant chez une femme vierge ne pose pas plus de difficultés au Seigneur que de faire naître un enfant chez une femme qui ne peut plus physiologiquement en avoir. Disons les choses autrement, mes amis. Rien ne peut lui résister. Et rien n'échappe à sa souveraineté. S'il existait un seul endroit dans ce monde ou dans l'univers, un seul, qui échappe au pouvoir de Dieu, alors Dieu n'est pas le Tout-Puissant que la Bible proclame. Ce serait un Dieu à l'image des hommes, au pouvoir limité, à la victoire incertaine, à l'autorité contestée. Mais il ne serait plus ce Dieu dont on ne peut penser de plus grand. Mes amis, quand l'ange dit à Marie « Rien n'est impossible à Dieu », il est en train de lui dire qu'il peut absolument, absolument tout. Est-ce que vous avez déjà observé la création ? Un paysage majestueux de montagnes, la force des océans ou la terreur des tremblements de terre ? Et alors résonne en votre cœur cette parole « Depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles ». C'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Repassez un instant tout ce que vous avez appris sur lui, sur ses hauts faits dans l'Écriture. Vous vous souvenez, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Ou bien, mer, ouvre-toi pour laisser passer mon peuple. Ou encore, Lazare, sors. Mais plus proche de vous, est-ce que vous pouvez repasser en vos cœurs tous les miracles et les bienfaits dont vous avez déjà été l'objet de sa part ? J'aimerais vous raconter une petite histoire de Noël que j'ai vécue comme jeune pasteur. Le premier Noël que j'ai célébré comme pasteur a vu une chose assez encourageante, pour ne pas dire formidable, c'est qu'une jeune femme, pour la première fois présente, a demandé la prière et s'est convertie. Elle était possédée, en tout cas elle avait des liens au culte, mais le Seigneur l'a délivrée. Et le miracle, c'est déjà celui-là, mais il y en a un autre. Figurez-vous que, avec son mari, CRS, plutôt tenant de l'extrême droite, avait un voisin algérien qu'ils agonissaient d'injures régulièrement. Je ne vais pas les répéter, parce que ce n'est pas édifiant. Sauf qu'au lendemain de cette fête et de la conversion de cette femme, ils sont allés frapper à la porte de ce couple, dont lui est algérien, et ils ont dit « Nous vous invitons à manger à la maison. » Et Kadour a été tellement stupéfait par le changement instantané que le dimanche suivant, il était à l'église et qu'il s'est aussi converti. Le Seigneur peut tout. Et au fond, c'est l'histoire de Noël vers laquelle nous cheminons. C'est cette démonstration éclatante de la prétention de Dieu. Oui, Dieu vient parmi nous en Jésus, et pour cela, il fait un miracle étonnant. Une vierge attend un enfant. Mais voilà, si l'ange est à une certitude paisible, Marie est quand même saisie d'un doute. Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ? Alors, le cantique qu'elle va chanter, ensuite, prouve qu'elle connaît l'Écriture, qu'elle professe d'ailleurs la toute-puissance de l'Éternel. Mais là, quand elle est directement concernée, la première chose qu'elle voit, c'est l'impossibilité. Oh, nous lui ressemblons tellement. Qu'en découvrant le projet de Dieu pour notre vie, nous sommes plus prompts à lui dire « Ô Seigneur, tu n'as pas considéré ma vie, il y a beaucoup d'obstacles », plutôt que de lui dire « Je te fais confiance ». Alors pourquoi sommes-nous ainsi ? Je vous propose trois explications simples. La première, c'est que nous projetons sur Dieu ce que nous sommes. Nous lui parlons comme s'il était un homme. Or, vous savez, notre expérience du genre humain n'est guère encourageante. Oh oui, nous voyons en l'homme de belles possibilités, mais alliées à une folie terrifiante. D'incroyables progrès, mais aussi d'immenses incertitudes. En définitive, nous sommes convaincus, peut-être vaincus même, par les limites humaines qui ont pour nom impuissance, finitude, péché, mort. Et inconsciemment, nous imaginons que Dieu est à notre mesure, au point de lui parler ce langage. « Tu sais, Seigneur, ce que tu veux faire est compliqué, et en ce qui me concerne, ce n'est pas possible. » Vous vous souvenez de Moïse ? « Allez, va, parle au Pharaon. »« Ah non, Seigneur, d'abord, je ne connais pas ton nom. »« Vas-y !» Et puis, vous savez, Moïse va dérouler 5 objections au Seigneur. La dernière, en fait, est la plus profonde. « Seigneur, envoie qui tu veux, mais pas moi. » Un Dieu à notre image. Et puis ensuite, une puissance menaçante. La puissance, la toute-puissance de Dieu nous menace, ou en tout cas nous en donne le sentiment. Pourquoi ? Parce qu'elle met en évidence la vanité de nos prétentions. Vous savez, dans notre petit orgueil humain, nous éprouvons le besoin de montrer notre force. Et tout ce que nous faisons, sur les plans religieux, scientifiques, relationnels, vise à prouver que nous ne sommes pas impuissants. Nous sommes animés depuis le jardin d'Éden et l'entrée du péché dans le monde par cette funeste convoitise, être comme des dieux à qui rien ni personne ne peut résister. Et mes amis, soyons réalistes, même nos efforts religieux sont marqués par cette folie. Nous voulons nous hisser vers Dieu et gagner le ciel par nous-mêmes. Or Noël, c'est le démenti cinglant de nos pauvres prétentions. Noël, c'est Dieu qui, dans sa sagesse et son amour, avec sa toute-puissance, se fait homme pour venir vers nous en Jésus. C'est Dieu qui nous dit en quelque sorte, arrête de t'agiter, il n'y a rien à faire, car c'est moi qui viens et c'est moi qui vais tout accomplir. Et vous savez, le message, ce message n'est pas facile à accepter. Mes amis qui faites de l'évangélisation, souvenez-vous que personne n'aime entendre le message de la bonne nouvelle parce qu'il implique d'abord l'impuissance humaine. Mais soyez encouragés, le Saint-Esprit est plus fort que tous les raisonnements humains. Et puis dernièrement, et ça va dans la même veine, une grâce qui dérange. La troisième explication, c'est que la puissance de Dieu se manifeste comme une grâce, comme un cadeau. Je vais peut-être vous surprendre, mais nous n'aimons pas les cadeaux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Marie est elle-même troublée par la parole de l'ange. « Je te salue, toi, qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Vous savez que nous n'aimons pas recevoir des cadeaux immérités, surtout s'ils sont de grande valeur. Tant qu'ils peuvent s'expliquer par nos mérites, que nos services, que les services rendus peuvent les justifier, ou les services que nous allons bientôt rendre, ou bien l'amitié avec des gens très proches, alors oui, nous pouvons les accepter. Mais vous savez qu'un cadeau totalement gratuit, qu'aucune explication rationnelle ne peut justifier, nous fait fuir. Parce qu'ils nous rendent dépendants du donateur. Et nous n'aimons pas être en dette. J'ai fait une petite expérience sur les marchés quand j'étais pasteur. Au début, j'offrais des Bibles gratuites. Mais quand j'approchais avec mon livre, les gens fuyaient. Parce qu'ils pensaient que j'avais sûrement une idée derrière la tête pour leur offrir un si gros bouquin. Et j'ai compris qu'il était plus profitable de leur offrir un petit évangile. Ils avaient moins peur de ce cadeau. Si vous y réfléchissez un instant, avec Dieu, le cadeau est total. La raison n'est pas en nous. Aucun de nous ne mérite sa grâce. Et ce qui nous donne a tant de valeur que jamais, vous m'entendez, jamais, nous ne pourrons le rendre. Du coup, sa grâce nous rend totalement et radicalement dépendants. Voilà qui heurte de plein fouet notre prétention à l'indépendance orgueilleuse. C'est pourquoi Marie a un instant de doute face à la grâce que le Seigneur lui fait. Et c'est pourquoi nous doutons quand le Seigneur nous révèle sa grâce, son projet d'amour pour nos vies. Et j'affirme que tant que vous n'avez pas compris, tant que nous n'avons pas compris l'amour infini que Dieu nous porte, il nous est difficile, voire impossible d'accepter qu'à lui, rien n'est impossible. Et je me demande parfois, et si au fond le problème, c'était que nous ne voulions rien devoir au Dieu Tout-Puissant ? Heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Et finalement, à la réponse de l'ange, rien n'est impossible à Dieu. Marie comprend qu'il y a là un appel à la foi et elle va y répondre de façon soumise et confiante. Cette histoire est une façon de dire, de nous dire, fais confiance à mon amour bienveillant, fais confiance à ma puissance créatrice, fais confiance à la vérité de ma parole, laisse ta méfiance instinctive et ne cherche pas derrière mes mots des intentions cachées ou des desseins compliqués. Vous savez combien nous, hommes et femmes, nous sommes finalement compliqués et calculateurs. Derrière une salutation appuyée comme l'ange, comme celle de l'ange, nous soupçonnons une demande de service. Tiens, tiens, mais pourquoi me salue-t-il ainsi ? Derrière une remarque anodine, j'ai quelque chose à te dire. Ouh, nous soupçonnons le reproche sévère. Mais permettez-moi de vous poser une question. Si, à l'égard de nos semblables, cette méfiance est malheureusement souvent justifiée, l'est-elle à l'égard de Dieu ? Est-il un homme pour nous mentir ou pour nous piéger ? Non. Non, absolument non. Alors que fait Dieu par la bouche de l'ange ? Eh bien, il invite Marie, et nous par la même occasion à croire dans la puissance de sa parole et dans la bonté de son projet. Ce qu'il dit s'accomplit, ses promesses sont certaines et ne sont pas dictées par de sombres desseins. Vous savez que rien n'est impossible à Dieu, se traduit littéralement, aucune parole de la part de Dieu ne sera impuissante. Aucune parole de la part de Dieu ne sera impuissante. Alors Marie se laisse convaincre, elle fait confiance à la parole du Seigneur, elle a cette réponse admirable de foi, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu as dit s'accomplisse pour moi. » Alors évidemment, personne ne peut remplacer Marie. Elle a une place tout à fait particulière, elle a été celle qui a porté en son sein le Fils de Dieu. Mais ce qu'elle a fait dans la foi nous concerne tous. Accueillir la parole de Dieu pour nous et devenir des servantes et des serviteurs du Seigneur. J'aimerais vous parler quelques instants pour terminer d'un évêque qui a vécu il y a très longtemps en Afrique du Nord et qui est chéri par nos frères et sœurs algériens, en particulier Kabyle, Augustin d'Hippone. Et voici ce qu'il dit sur Noël. Qu'est-ce que la naissance du Seigneur ? C'est la sagesse de Dieu se montrant sous les formes d'un enfant. C'est le Verbe de Dieu faisant entendre dans la chair des sons inarticulés. Mais ce Dieu caché saura se faire rendre témoignage par le ciel devant les mages et se faire annoncer aux bergers par la voix des anges. Ainsi, nous célébrons aujourd'hui le jour anniversaire de celui où s'accomplit cette prophétie. La vérité s'est levée sur la terre et la justice nous a regardés du haut des cieux. La vérité qui est dans le sein du Père s'est levée sur la terre pour être aussi dans le sein d'une mère. La vérité qui porte le monde s'est levée sur la terre pour être portée sur les mains d'une femme. La vérité qui nourrit d'elle l'inaltérable bonheur des anges s'est levée sur la terre pour vivre elle-même du lait d'une mère. La vérité que ne saurait contenir le ciel s'est levée sur la terre pour être déposée dans une étable. Pour l'avantage de qui cette incomparable grandeur se présente-t-elle à nous sous de si prodigieux abaissements ? Ce n'est pas assurément pour son avantage. Mais si nous croyons, il en résultera pour nous des biens immenses. Ô homme, éveille-toi, c'est pour toi que Dieu s'est fait homme. Et il termine ainsi, Célébrons avec joie le jour de notre salut et de notre rédemption. Célébrons le jour solennel, ou le grand jour, ou le jour éternel qui naît d'un jour grand et éternel également, fait son entrée dans notre jour temporel et si court. C'est lui qui est devenu pour nous et justice, et sanctification, et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je vous l'avais dit, il y a plus de joie pour l'humanité entière dans ce récit de l'Annonciation que dans toutes les promesses du Black Friday qui n'en finit pas. Alors laissons-nous saisir par le message de l'ange et par l'exemple de Marie. Puisque la venue de Jésus montre, si c'était possible, et ça l'est, que rien n'est impossible à Dieu, et que la réponse de Marie est une invitation à la pleine confiance, à la pleine obéissance, il ne nous reste plus qu'à accueillir dans la foi la parole d'amour que Dieu nous adresse. Nous cheminons vers Noël, et si ce qui vous paraît impossible, vous le remettiez à Dieu. Je pense à ceux d'entre vous sur le seuil de la porte qui disent « Ah, c'est beau la foi chez les autres !» et à qui je dis « Mais franchissez le seuil !» Vous n'avez rien d'autre à faire qu'à lui dire « Seigneur, viens, pardonne, transforme !» Je pense à ces situations dans vos familles, dans la mienne, où il n'y a pas de pardon, où la haine s'est comme enquistée, où nous allons nous faire des sourires hypocrites, alors que nos cœurs sont brisés. Et si nous allions vers ceux qui nous ont fait du mal avec le pardon de Dieu? Et j'en pense peut-être à ceux d'entre vous chez qui l'appel du Seigneur retentit depuis longtemps, mais qui disent toujours « Seigneur, plus tard, je veux faire ceci et cela ». Cela fait une trentaine d'années que je suis pasteur, et c'est depuis l'âge de 13 ans que j'ai reçu cet appel. Mais vous savez, il n'y a pas que les pasteurs qui servent le Seigneur. Nous le servons tous. Soyons entre ses mains des instruments dociles et qu'il honore. C'est ma prière. En Jésus, amen. Je vous invite à vous incliner dans la prière. Oui, nous voulons confesser que, comme le dit ta parole, comme l'ange l'a dit à Marie, tout est possible à toi, Dieu Tout-Puissant, et comme le dit un autre texte, tout est possible à celui qui croit. Oui, nous voulons confesser que tu es ce Dieu-là, ce Dieu plein d'amour, qui a fait l'impensable pour notre salut. Nous voulons aussi confesser, Seigneur, que malgré ta toute-puissance, malgré ta bonté démontrée, le doute, bien souvent, a pris le dessus dans nos cœurs et la crainte. Et nous n'avons écouté ta parole qu'avec tremblement, parfois en l'oubliant. Ô que ta grâce, ton esprit, ravive la flamme dans nos cœurs pour que nous soyons des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui te suivent avec une pleine confiance. Et nous te prions pour ce repas que nous allons partager, ce pain et ce vin qui nous rappellent ton corps brisé et ton sang versé. Bénis ces moments de communion, nous t'en prions, Jésus. Amen.